Eh bien, bonjour pour ce café littéraire. Café littéraire au titre extrêmement simple, pas du tout recherché. De temps en temps, il y a des choses très pointues aux imaginales. Et puis parfois, il y a des sujets tout simples. La fantaisie, c'est rien que du bonheur. C'est une affirmation, un enthousiasme. Et c'est aussi une façon de réunir des auteurs au monde extrêmement différent, même si l'étiquette qui les rassemble, c'est l'étiquette fantaisie. Alors, on va commencer par nos invités étrangers. Petit signe de courtoisie et façon de les remercier de nous venir de si loin, en particulier pour Trudy Canavan qui nous vient d'Australie. C'est la première fois qu'on a une auteure australienne parmi nous. Elle fait une tournée européenne et on a le grand plaisir de voir qu'elle a choisi pour son arrêt français la ville d'Épinal et le Festival des Imaginales. Donc, bienvenue Trudy Canavan. Et Brandon Sanderson, qui lui est déjà un habitué des festivals, qui est déjà venu en France, mais qui avait évidemment besoin de faire un arrêt, comme maintenant tous les auteurs de fantasy américains, à tour de rôle aux imaginales. Et c'est un grand bonheur pour nous de l'accueillir, parce que je peux lui dire qu'il bénéficie lui aussi d'une très belle réputation chez les collaborateurs du festival. Et c'est pas Daniel, c'est évidemment pas Lionel qui me démentira. Et puis nos auteurs français, alors des habitués, de longue date. Tous les deux, Brice Tarvel, qu'on a connu comme scénariste de BD, qui continue à en faire, mais qui se met vraiment au roman de fantasy et avec beaucoup de passion. Alors, il a écrit des romans par le passé, il a fait plus de BD, et là, je trouve qu'il y a vraiment une envie, on sent, d'écrire à nouveau des romans. Et là, rentrer dans une écurie, entre guillemets, comme celle de Mnemos, avec toute la jeune génération de la fantasy, lui qui est un vieux routier, vieux, pas si vieux, mais un habitué de l'imaginaire, eh bien c'est aussi un signe intéressant de voir qu'une maison d'édition spécialisée en fantasy accueille des auteurs qui sont à la fois ceux de la tradition, qui ont parfois été parmi les précurseurs de cette littérature en France, et puis aussi la toute jeune génération. Et puis, je termine par Eric Lhomme. Beaucoup d'entre vous le connaissent, en particulier les jeunes lecteurs. Eric Lhomme, dans ce café littéraire, est celui qui représente un petit peu, je dirais, la littérature jeunesse. C'est un habitué des imaginales, un fidèle. Il est rare qu'il ne vienne pas. De temps en temps, une année, il est pris. Mais on sait que s'il ne vient pas une année, on le retrouvera l'année suivante. Et c'est toujours un plaisir, en particulier pour les jeunes lecteurs qu'il a commencé, je crois, ou qu'il rencontre tout à l'heure, qui ont plaisir à découvrir ses livres. Et puis là, il y a un petit moment aussi d'émotion. On le reverra pour un autre café, parce qu'il est en ce moment en train de publier une série de livres, il nous en dira un mot, qu'il a concocté avec le très regretté, et ce n'est pas une formule, Pierre Bottero, qu'on a découvert 2 années de suite aux Imaginales, et que malheureusement, un stupide accident de moto nous en a privé. Voilà, et c'est un plaisir d'avoir Eric, qui avait commencé à travailler avec lui, un peu comme Gilles Francescano. Voilà, alors bienvenue à nos auteurs, et la première question, ça sera pour Brandon Sanderson. Ça renvoie tout simplement à l'interview qu'il a accordée au supplément programme de Vosges Matin, que vous avez sans doute tous lu, où il nous explique que finalement, ce n'était pas un très bon élève, pas un très bon lecteur, et que quelque part, s'il aime la littérature au point aujourd'hui de la faire découvrir aux autres, c'est parce qu'il est tombé dedans, tout jeune, la fantaisie. Finalement, c'est cette littérature-là qui lui plaisait.
Yes, indeed. I was a very poor student in school until I discovered reading. And many people tried to give me books and get me reading, but they always gave me the wrong books. It wasn't until someone gave me a fantasy novel that everything changed for me.
Oui, effectivement, j'étais assez mauvais élève jusqu'à ce que je découvre la lecture. Beaucoup de personnes essayaient de me donner des livres à lire et je rentrais pas dedans, c'était pas les bons livres pour moi. Et tout a changé le jour où on m'a donné un livre de fantasy et là, ça a complètement élargi mes horizons.
And I often wonder what it was about that fantasy novel that changed things for me. And I think it is the added level of imagination and creativity that fantasy has that really challenged me and forced me to go beyond what I had been doing before.
Et je me demande souvent ce qu'il y avait de si spécial et de particulier avec ce roman de fantasy pour que les choses changent à ce point. Et je pense que c'était la strate supplémentaire d'imagination et de créativité que la fantasy permet. Ça m'a posé un véritable défi en tant que lecteur et cela m'a permis d'aller au-delà de ce que je faisais précédemment.
Trudy Canavan, votre fantaisie à vous, vous l'avez découverte d'abord comme lectrice ou vous êtes venue par d'autres genres littéraires avant de devenir vous-même une des grandes signatures de la fantaisie mondiale?
I've always been interested in stories with supernatural elements.
J'ai toujours été intéressée par les histoires avec des éléments surnaturels.
From fairy tales and Bible stories that I read as a child.
Depuis les contes de fées, mais aussi les histoires de la Bible que je lisais en tant enfant.
But also film and TV, anything I could get my hands on. I particularly liked the speculative, the ones with the speculative elements to them.
Et que ce soit aussi à la télé ou dans les films, n'importe quoi sur quoi je pouvais mettre la main, j'aimais bien à chaque fois qu'il y avait des éléments un peu surnaturels comme ça.
When I was about 12, I think the Star Wars movies, the second Star Wars movie came out, and after I'd seen that, I decided I wanted to make films.
Et donc quand j'avais 12 ans, le deuxième volet de Star Wars est sorti, et après l'avoir vu, j'ai décidé que je voulais faire des films.
And I probably told this to a very wise adult, a teacher or a friend of the family, and they suggested that I write my ideas down.
Et donc je l'ai sans doute dit à un adulte autour de moi, qui était un adulte très sage autour de moi, un parent ou un professeur, qui m'a suggéré de mettre par écrit mes idées.
And I did as much writing as I did drawing because I'm also an artist.
Parce que et donc j'ai fait aussi j'ai pris des notes, mais j'ai aussi fait des dessins parce que je suis aussi artiste, je suis illustratrice.
So I have folders full of really bad drawings from when I was about that age.
Donc j'ai des dossiers, j'ai des chemises avec des très mauvais dessins que j'avais fait à cet âge-là.
And then I got to 14, I read Lord of the Rings. And
quand...
I actually came to that two ways. The BBC did a radio series. I started listening to that. I was already reading fantasy books.
Quand j'ai eu 14 ans, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, j'y suis venue par deux façons, parce qu'il y a, d'abord eu une série sur la BBC.
And I started following the radio show along with reading the book.
Et donc j'ai commencé à suivre le show radio, en fait, l'émission radio, en même temps que je lisais les livres.
And I soon got faster than the radio show, and I finished it way before the radio show finished. I think it's 52 episodes, so it's almost a year.
Donc, j'ai fini de lire les bouquins bien plus vite que l'émission de radio ne s'est terminée, parce que je crois qu'il y avait 52 épisodes, donc ça durait presque une année, donc j'avais fini les livres avant.
And after that, I decided that, for two reasons, I mean, I had read this book, and the idea of creating an amazingly well-rounded world like that inspired me, and I decided I wanted to do it myself.
Et donc après ça, j'ai décidé que je voulais faire ça moi-même. Je voulais créer des personnages dans un monde qui soit bien complet, bien fini, bien finulé.
Yeah. Though I was hoping it wouldn't take as long as it took Tolkien.
Donc j'espérais bien que ça ne prendrait pas autant de temps que ça a pris à Tolkien.
And yeah, I decided my nature, my personality wasn't the sort to be a film director because I realized as a film director you have to push people around.
Et j'ai compris que ma nature, ma personnalité n'était pas de faire des films, parce que j'ai réalisé que quand on fait des films, on doit pousser les gens, on doit être derrière les gens.
And I was a fairly shy teenager, and I thought locking myself up in a room and writing was actually suited me much better.
Et comme j'étais de nature assez timide, en fait, j'ai décidé que m'enfermer dans une chambre pour écrire, ça m'irait un peu mieux, ça irait mieux à mon caractère.
And I also decided that I had to have a book written by 25, because that was positively ancient.
You were positively what?
Very, very old.
et donc j'ai décidé qu'il fallait absolument que j'ai écrit un bouquin à 25 ans, parce que 25 ans c'est quand même vachement vieux.
Et vous, Brice Tarvel, Laure et la Toise, votre roman, donc c'est d'abord le premier roman d'une série, 3 volumes.
Oui, pour l'instant il y a 2 volumes. La série s'appelle Ceux des eaux mortes. Donc le tome 1, Laure et la Toise, est paru fin janvier, et le second tome, qui éventuellement clôture la série, parce qu'il n'est pas certain qu'il y aura un troisième, c'est indépendant de ma volonté, mais je suis prêt éventuellement à faire un troisième. Et donc le deuxième volume s'appellera Au large des vivants. Moi, à 25 ans, je peinais encore pour avoir le souffle d'écrire un gros roman.
Pourquoi la fantaisie ?
Pourquoi la fantasy ? Parce que j'aime bien tâter de toutes sortes de genres. J'ai écrit de la BD pour adultes, pour la jeunesse. J'ai écrit de la science-fiction. J'ai écrit un roman gore. J'ai écrit dans toutes les directions. Je n'avais pas encore tâté de la fantasy, donc je m'y suis mis. En plus, comme c'était un peu dans l'air du temps...
J'ai quand même remarqué que ce roman, il est très inspiré des contes. Il démarre un peu comme un conte.
Oui, la fantaisie, je pense qu'elle émerge des contes très anciens, des vieux classiques, mais je voulais m'en démarquer. Je ne connais pas trop la fantaisie, bien que j'en ai écrit, mais au départ, je n'en ai pas lu beaucoup. J'ai dû lire 7 ou 8 volumes, et je me suis plutôt basé sur le western. J'ai fait un parallèle avec le western, et entre autres les westerns de Sergio Leone. J'ai donc fait une fantaisie avec à l'esprit les films de Sergio Leone. Donc j'ai aussi des bons, des brutes, des truands, et mâles et femelles.
Eh bien, ça promet. Plutôt des magiciens, des magiciennes. C'est trop dit, Canavan, j'ai bien vu que votre œuvre est très centrée sur une fantaisie magique. Pourquoi cette fascination pour la magie alors qu'au coup d'envoi, jeudi, vous nous disiez « mais je ne suis pas du tout superstitieux, je ne crois absolument pas à l'existence de la magie dans la réalité ».
I think it's because I don't believe in magic that I find it fascinating. To me, it's the challenge of making the impossible seem real.
Moi, je crois qu'en fait, c'est parce que je ne crois pas en la magie qu'elle me fascine autant. C'est une espèce de défi de la faire paraître crédible, justement.
It wouldn't be so interesting if I thought it was actually real.
Ce serait pas aussi intéressant si je pensais qu'en fait, elle existait vraiment.
Yeah. Et puis, quelle richesse narrative ça offre dans un roman de fantasy et d'action de disposer de magiciens puissants et souvent des magiciens mauvais, négatifs.
I suspect that without even intending to, I was writing a bit of a social commentary on, say, technology and weaponry, in that if you substituted technology for magic in this, it's all about, I mean, it's what you put technology to, what the purpose decides.
Could you refer? I didn't get the first part.
I think I was unintentionally doing an allegory of the effect of technology and weaponry on human society.
Donc en fait, je pense que de façon pas vraiment intentionnelle, je faisais une espèce d'allégorie avec l'impact de la technologie et des armes sur la société humaine.
So, I mean, technology can be used for wonderful things. For example, healing. Again, in the magic in my books. Healing is the most wonderful thing that can be used for.
Et la technologie peut être utilisée pour des choses absolument merveilleuses, comme de guérir les gens, et comme la magie dans mon livre aussi peut être utilisée pour guérir les gens.
But then, on the other hand, you've got black magic in my books, which is forbidden magic, which is like you could almost say it's nuclear power. It's something that it's forbidden, but.
Et dans mon livre, il y a aussi la magie noire, la magie interdite, la magie dangereuse, qui est un peu aussi dangereuse que le nucléaire, en fait, on pourrait dire.
And so the purpose you put it to is really up to you. It's not necessarily an evil thing itself, but the wielder is will make it good or evil depending on the purpose they put it to.
Et mais la magie noire n'est pas mauvaise en elle-même, ça dépend de celui qui la pratique. S'il a de mauvaises intentions, s'il veut faire de mauvaises choses avec, ben dans ce cas-là, la magie sera mauvaise, mais c'est pas la magie en elle-même.
And I don't think I did this necessarily all that deliberately, but when I look back, I realize that there's a very strong parallel there.
Et je pense vraiment que je l'ai pas fait délibérément, mais quand je regarde en arrière, oui, j'ai l'impression que j'ai fait ce parallèle avec la.
Éric Lhomme, vous avez commencé votre carrière pas spécialement en fantaisie, en roman d'aventure, je dirais, et même votre premier ouvrage, qui n'était pas du romanesque, était plutôt une sorte d'enquête, et moi, celui que je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, sur un récit de voyage, en quelque sorte, à la fois de voyage et une enquête sur un peuple dont on ne sait pas s'il a existé ou pas. Vous rectifierez si je fais une erreur. En tout cas, j'ai bien vu que c'est à partir du voyage, mais physique, que vous êtes passionné avant de devenir vraiment écrivain. Et la deuxième remarque que je ferai, alors je sais qu'aujourd'hui c'est très contesté pour des raisons idéologiques, c'est vrai que certains de ces romans, maintenant avec le recul, peuvent nous paraître emplis de préjugés, mais je les ai lus, je ne suis pas si jeune, je pense aux signes de piste. Et quelque part, retirons des choses idéologiques qui peuvent déranger aujourd'hui, mais la force qu'avaient ces romans, ces collections, ces auteurs, pour la jeune génération, c'est le roman d'aventure. Et quand vous êtes passé à la science-fiction et aujourd'hui à la fantasy, est-ce que ce n'est pas une façon de retrouver, sinon bien sûr cette collection et son esprit, mais de retrouver en tout cas ce souffle-là de l'aventure?
Oui, alors il va falloir que je réponde à plusieurs questions. En une, alors effectivement, avant d'écrire de la fantasy, j'ai beaucoup voyagé, mais l'essence même de mon premier voyage me prédestinait à écrire de la fantasy ou du fantastique, puisque je suis parti 2 années dans les montagnes du nord Pakistan à la recherche du Yeti. Et donc c'était une manière de réenchanter le monde à ma manière, de façon physique. Et alors, ce qui m'a amené tout naturellement par la suite à la fantasy, au fantastique, enfin je mélange un petit peu les genres dans mes livres, c'est que j'ai eu la chance de vivre une enfance sans télévision. Et c'était tout à fait délibéré de la part de mes parents qui, en contrepartie, tous les soirs, à tour de rôle, nous réunissaient, mes frères et moi, et nous lisaient des histoires, des contes, des légendes, le chevalier à table ronde, les mythologies nordiques. Brice disait tout à l'heure que la fantasy puise son origine dans ces vieux mythes. Je suis tout à fait d'accord. Et voilà. Pour en venir donc à la deuxième question, cette collection Signes de piste qui m'a beaucoup influencé quand j'étais adolescent, ce que j'adorais dans cette collection, c'était de découvrir des groupes de jeunes qui vivait une aventure sans entrave. C'était un monde sans parents, un monde merveilleux, puisque sans parents, où on pouvait partir une semaine, marcher dans la forêt, rencontrer une vraie camaraderie autour d'un feu, vivre une aventure qui surgissait comme ça, au détour d'une ruine, au détour d'une rivière. Et on retrouve cette influence dans mes livres, puisque je mets toujours en scène des bandes, des groupes de jeunes qui confrontés à des épreuves et des aventures, grandissent et sont obligés de donner le meilleur d'eux-mêmes.
C'est peut-être aussi ça le rôle d'un écrivain. Pour nous, c'est nous donner le meilleur d'eux-mêmes, et en tout cas, nos invités, c'est ce qu'on trouve qui nous apporte. Brandon Sanderson, j'ai lu en particulier votre premier diptyque. J'ai un petit trou, c'est l'âge, Elantris, voilà, absolument. Et c'est vraiment un diptyque qui fait partie des livres qui vraiment m'ont frappé, parce que c'était très très fort, cette idée du prince déchu à qui tout souriait, qui devait se marier, etc., qui brusquement était frappé par une sorte de maladie et donc d'ostracisme, et qui, à partir d'une situation qui aurait dû l'entraîner vers la mort et la déchéance, lutter dans n'importe quelle condition. Donc l'homme qui refuse le destin qui lui est imposé. Est-ce que c'est un thème important pour vous en littérature?
Yes, it's a very important theme. For me, I keep coming back time and time again to the concept of hope and envisioning change in my writing.
Oui, effectivement, c'est un thème qui est très important pour moi. Je reviens sans cesse, régulièrement, au concept d'espoir, de vision et de changement, la façon dont une vision peut amener un changement.
And I think this actually relates to some of the questions you've been asking about the nature of fantasy. We keep coming back to this question: why fantasy? Why do we write fantasy? Why do we love fantasy? And I think these two ideas are related.
Et je pense que ça revient beaucoup vers les questions que vous posiez plus tôt sur la nature de la fantasy. La question: pourquoi la fantasy? Pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Pourquoi est-ce qu'on aime ça? Et je pense que ce sont des aspects qui sont liés.
Merci. Petit extrait, parce que quand même, parle beaucoup entre nous et ça peut être toujours intéressant de revenir au texte. C'est ça, ce divine. Il doit être fou. Le Seigneur Maître et moi s'empressa de répondre Kelsière, nous avons des comptes à régler. Il m'a pris marre, il a failli me prendre aussi ma santé mentale. Je vous avoue que mon intérêt pour ce plan vient en partie de l'envie de me venger de lui. Nous allons lui prendre son gouvernement, son foyer et sa fortune. Toutefois, pour que ça fonctionne, nous allons devoir nous débarrasser de lui, peut-être l'emprisonner dans ses propres geôles. Au minimum, nous allons devoir le faire sortir de la ville. Quoi qu'il en soit, je peux trouver une solution préférable à ces deux-là. Dans ces fosses où il m'a envoyé, j'ai basculé et vu se réveiller mes pouvoirs d'allomancien. À présent, je compte m'en servir pour le tuer. Kelsière prolongea la main dans la poche de son costume et en tira quelque chose qu'il posa sur la table. Au nord, dit-il, ils ont une légende. Elle nous apprend que le Seigneur Maître n'est pas immortel, pas tout à fait, et qu'on peut le tuer avec le métal approprié, le 11e métal, celui-là. Tous les yeux se tournèrent vers l'objet posé sur la table. C'était une fine barre de métal de forme régulière, aussi longue et large que le petit doigt de Vine. Elle était d'un blanc argenté. Le 11e métal, demanda Brise hésitant, je n'ai jamais entendu cette légende. Le Seigneur Maître l'a fait disparaître, répondit Kelsière. Mais on peut toujours la dénicher, si on sait où chercher. La théorie allomantique parle de 10 métaux, les 8 de base et les 2 métaux supérieurs. Il y en a toutefois un autre que la plupart des gens ignorent, encore plus puissant et de loin que les 10 autres. Brise fronça les sourcils d'un air sceptique. Eden, quant à lui, parut intrigué. Et ce métal a la capacité de tuer le Seigneur Maître ? Kelsière hocha la tête, c'est sa faiblesse. Le ministère d'Acier veut que vous le croyiez immortel, mais même lui, il peut être tué par un allomancien qui brûlerait ceci. Ham tendit la main pour s'emparer de la mince barre de métal. Où te l'es-tu procuré ? Au nord, répondit Kelsière, dans une région proche de la péninsule extrême, où les gens se rappellent toujours comment s'appelait leur vieux royaume avant l'ascension. Comment est-ce que ça fonctionne ? Demanda Brise. Je ne sais pas trop, avoua Kelsière, mais je compte bien le découvrir. Ham observa le métal couleur de porcelaine et le retourna entre ses doigts. Tuer le Seigneur Maître, songea Vine. Le Seigneur Maître était une force de la nature, comme les vents ou les brumes. On ne tuait pas ces choses-là. Elles ne vivaient pas en réalité. Elles se contentaient d'être. Quoi qu'il en soit, dit Kelsière en reprenant le métal à Ham, ne vous en faites pas sujet. Tuer le Seigneur Maître, c'est ma part du boulot. Alors, de la violence, de l'action. C'est ça aussi qui fait le succès de vos romans, Brandon Sanderson?
Yes, you want to have good action. You want to have good good motion in your stories. But in my mind, the stories are really more about people who refuse to accept the reality that people insist they should be part of.
Oui, tout à fait. Dans une histoire, je pense qu'on veut avoir une action intéressante, du mouvement dans une histoire. Pour moi, je pense qu'une histoire parle plus de gens qui refusent d'accepter la réalité qu'on leur impose et dont on insiste qu'il faudrait qu'ils l'acceptent.
People ask me why fantasy, and I keep saying why are people so interested in reality? Because reality, reality doesn't change the world. It's imagination that changes the world. Before, you know, men could fly, not flying was the reality. The fantasy was being able to fly, and some people refused to accept the current reality. Before there was equality, and before the civil rights movement, the reality was that people were not equal. After the civil rights movement, the fantasy became reality. And so I want to write about people who were imagining the world beyond. I want to ask the questions. Reality is boring.
On ne cesse de me poser la question, pourquoi de la fantaisie ? Pourquoi écrire de la fantaisie ? Et je ne cesse de répondre, mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans la réalité ? La réalité ne change pas le monde, c'est l'imagination qui permet de changer le monde. Par exemple, avant que l'homme puisse voler, c'était le fait de ne pas voler qui était la réalité, et c'est l'imagination, la fantaisie, c'était de pouvoir imaginer qu'on puisse voler. Et il y a des gens qui refusaient d'accepter cette réalité, le fait de ne pas pouvoir voler, et qui ont rendu, rendu le vol possible. De la même façon, avant qu'on ait l'égalité, certaines formes d'égalité raciale, cette inégalité était la réalité. Et il y a des gens qui ont donc eu cet autre rêve, pensé cette fantaisie, qu'on pourrait avoir une forme d'égalité. Donc moi je veux pas écrire sur la réalité, je veux écrire au-delà de celle-ci. Pour aller au-delà, et c'est ça dont j'ai envie de parler dans mes livres, parce que je trouve que la réalité est prodigieusement ennuyeuse.
Quelle passion, quelle déclaration pour l'imaginaire. La réalité est passionnellement ennuyeuse. La magie, est-ce que c'est aussi une bonne source d'action, de rebondissement, au-delà du fait que ça vous passionne parce que ça n'existe pas, est-ce que c'est aussi une façon de rebondir, de surprendre, de rebattre les cartes en quelque sorte dans un roman et de permettre d'avoir des rebondissements?
Yes and no.
Oui et non.
I think what brings surprises in a novel is actually good storytelling.
Je pense que ce qui crée les rebondissements dans un livre, c'est une bonne narration.
Plutôt. And that can happen through magic and through non-magical means as well.
Et ça peut se produire via la magie ou via des événements non magiques aussi.
One way in which my books may be surprising with the magic is that I deliberately chose to write not about dragons, not about elves, not about magic swords and prophecies.
La façon dont mes livres peuvent être surprenants au niveau de la magie, c'est que délibérément je refuse d'écrire à propos des dragons, à propos des fées, de ce genre de choses.
And these things may be what non-readers of fantasy expect.
Ces choses-là, c'est peut-être justement ce que le lecteur de fantasy attend.
I chose to concentrate. My main fantasy element is the magic.
Et je choisis de concentrer principalement mes éléments fantasy dans la magie.
The other way that I deviated from what was as often expected is my main protagonist is just a lowly ordinary person.
Et la deuxième façon que j'ai de contourner les clichés, de contourner ce qu'on attend de moi, c'est d'avoir un personnage principal qui vient de la basse classe.
I deliberately chose not to make them a royal, be that an actual royal who's in power or the lost royal, which is a common trope as well.
Et j'ai délibérément évité le cliché très commun du personnage d'origine royale ou alors le personnage royal qu'on a perdu et qui revient dans le royaume.
Fantasy is such a broad field. If you like books about dragons, if you like books with princes in them, then there's plenty of people who've done them very well before. I decided to have a new slant, a new approach.
Et donc, si vous aimez la fantasy est un domaine tellement large que vous pouvez lire des histoires à propos de dragons ou à propos de princes qui ont été très bien écrites par d'autres personnes. Mais du coup, moi, j'essaie de me concentrer et d'avoir une approche différente.
Eh bien, la magie, les magiciens. Donc, le premier volume des Chroniques du magicien noir, La mission de l'ambassadeur, c'est le titre. Petit extrait, si je ne suis pas couvert par la balayeuse qui se rapproche de nous. La magie est partout, mais le réel parfois se rappelle à nous. Comme les murmures se taisaient autour d'elle, Sonéa reporta son attention sur l'administrateur Hossein. Le directeur des novices Naren se trouve actuellement en Elin et les conseillers du roi ne seront pas des nôtres aujourd'hui, lança-t-il d'une voix forte. Comme tous les autres sont arrivés, je suggère que nous commencions. Les hommages le suivirent à l'intérieur du hall de la guilde. Des gradins abrupts se dressaient au fond de la pièce. Les niveaux supérieurs étaient réservés aux magiciens de plus haut rang. Sonéa se hissa jusqu'à sa place à côté du haut seigneur Balkan. Elle vit les portes de devant s'ouvrir et le hall se remplir de magiciens. Deux groupes se formèrent de chaque côté de ce qui était considéré comme l'avant de la pièce, l'espace situé au pied des gradins. Dès que tous furent installés, l'administrateur Hossein déclara l'audience ouverte. J'appelle le seigneur Pendel, chef des pétitionnaires, afin qu'il présente leur requête. Un séduisant jeune homme, dont le père dirigeait une entreprise de métallurgie, sortit du groupe situé sur la droite. Il y a 20 ans, lorsqu'un amendement a donné l'accès de la guilde aux hommes et aux femmes issus des classes inférieures d'Imardin, beaucoup de règles sages et pratiques ont été mises en place, commença-t-il, lisant ce qui était écrit sur une feuille de papier qu'il tenait à la main. Mais cette évolution, aussi inattendue que nécessaire, a également donné le jour à quelques règles qui, à l'usage, se sont avérées peu judicieuses. Le jeune homme avait une voix forte et claire qui ne tremblait pas, nota Sonéa avec satisfaction. Les requérants avaient bien choisi leur porte-parole. Une de ces règles stipule que les magiciens et les novices ne doivent pas entretenir de liens avec les criminels ou les personnes de basse extraction, poursuivit Pendel. Bien que, dans certains cas, des novices aient été dûment expulsés de la guilde et privés d'accès de la magie en raison d'une association prolongée avec des individus ou des groupes peu recommandables, il existe bien davantage d'autres cas où l'application de cette règle a entraîné des injustices criantes. Depuis 20 ans, toute personne d'origine modeste est ainsi considérée comme de basse extraction, ce qui a dressé des barrières cruelles entre des parents et leurs enfants, engendrant un chagrin et un ressentiment inutile. Pendel fit une pause pour balayer son auditoire du regard. On pourrait considérer la guilde comme une institution hypocrite, dans la mesure où il n'existe aucun cas connu de magiciens issus des classes supérieures qui aient été punis pour avoir enfreint cette règle, malgré leur fréquentation assidue des tripots, des fumoirs et des bordels. L'inégalité sociale aussi chez les magiciens, ça existe, Trudy Canavan?
Yes, very much so.
Oui, beaucoup, oui.
Shall I elaborate?
Vous voulez que j'élabore?
Bien sûr.
Vous
en dire un peu plus.
When I came up with the idea for this world, I started with the magic, as I said. And the magic,
with magic. Quand j'ai commencé à créer ce monde-là, j'ai commencé avec l'idée de la magie.
The idea was that if magic was something within you, but you had to be taught to use it.
L'idée c'était que si la magie est quelque chose que vous avez en vous, mais qu'on doit vous apprendre à utiliser,
then the teachers are going to be very powerful.
Alors les professeurs seront forcément très puissants.
They're going to become the most powerful people in society, and they will get to choose who learns. And so they will eventually only choose those from their own class and society.
Ils vont acquérir beaucoup de pouvoir parce qu'évidemment ils pourront choisir les personnes qui vont apprendre la magie, et du coup évidemment ils vont choisir les personnes qui viennent de leur propre classe, de la même classe qu'eux.
In the stage that this society is at, magic is controlled by the highest class in society. So of course I had to introduce a character who naturally manifests magical powers, but uncontrolled ones. She has to be taught.
Et donc au début de cet univers-là, j'ai mis en place un univers où les magiciens de la haute société, de la classe supérieure, contrôlent la magie, mais où c'est une jeune femme qui vient de la basse classe qui développe des pouvoirs incontrôlés et qui doit donc apprendre à contrôler ses pouvoirs magiques.
She has to be taught to control those powers, otherwise she's going to become very dangerous. So this forces the Magician's Guild, which is the first book title, to take her in and deal with the problem of inequality.
Et donc elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs parce que sinon elle va devenir extrêmement dangereuse. Donc c'est dans le
It's in the first trilogy, not this one.
Yes. Et donc dans la première trilogie, la trilogie du magicien noir, elle va devoir se battre pour apprendre à contrôler sa magie et apprendre la magie.
In this book, which is the second of the, which is the first book of the sequel trilogy.
Et donc ce livre-là, la mission de l'ambassadeur, est le premier livre de la deuxième trilogie qui fait suite à la première trilogie, la trilogie du magicien noir.
Various events, which I won't tell you because it'll spoil the plot of the first series, have forced the guild to take in more people from the underclasses.
Je vous dirai pas exactement ce qui s'est passé parce que sinon ça vous gâcherait toute l'histoire, mais il y a quelques éléments qui ont forcé les magiciens de la classe supérieure à accepter que des magiciens de la basse classe viennent apprendre la magie aussi.
In the scene that Stefan read, they're discussing some of the problems that this has brought up.
Et donc dans l'extrait que Stéphanie était en train de lire, ils discutent justement des problèmes que ça peut apporter d'avoir des magiciens de basse classe.
But there's also become a split in the guild where students and graduated magicians call themselves either snooties or lowies.
Et donc ça a créé aussi une séparation dans la guilde, dans le milieu des magiciens, parce que certains magiciens vont être appelés, ils vont se donner des surnoms, chacun, je ne me souviens plus exactement des surnoms. Mais oui, c'était des surnoms genre Bouzeux et puis Richou, quoi.
And there's a half-friendly and half-serious competition that goes on between them.
Et donc, du coup, il y a une compétition à moitié sérieuse, à moitié amicale qui s'instaure entre eux.
Si je vous demandais, Brice Tarvel, de nous présenter votre nouvelle série, L'or et la toise, de situer un petit peu le contexte, le début de l'histoire en quelques mots. C'est vous qui allez vous y mettre cette fois-ci, c'est plus moi qui travaille.
Oui. L'heure et la toise, bon, c'est le titre du premier tome. Le point de départ, c'est un pays, la Fagne, qui est frappé d'un double sortilège. Le pays est coupé en deux. Toute la partie nord, tout être vivant, objet, grandissent. Et au sud, tous les objets et êtres vivants rapetissent. Donc, le fil conducteur de l'histoire, c'est un groupe de héros calamiteux, que j'appelle des traînevases, qui s'en vont voler un trésor en Fagne du Sud, un petit trésor, avec tous les inconvénients des phénomènes de grandissement, de rétrécissement sur le parcours, avec des animaux qui, eux aussi, ont des formes étranges. Et ils vont donc voler ce trésor pour le ramener au nord, un peu comme des traders, pour le faire fructifier puisqu'il va grandir. Et tout ça se complique parce que il y a une sorcière qui essaye de se glisser dans ce larcin. Et cette sorcière-là leur fournit au départ le toiseur, qui est un élixir qui permet de contrôler plus ou moins sa taille en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc ça peut paraître assez compliqué comme ça, mais c'est amené progressivement et le tout est un peu parsemé d'expressions, de mots de vieux français. Mais que ça vous effraie pas, parce que je pense que on s'y habitue bien, et certains m'en ont dit du bien, qu'ils avaient apprécié le langage fleuri. Donc j'ai essayé de pousser l'imagination au maximum. Ne connaissant pas trop la fantaisie, comme je l'ai dit au tout début, j'ai voulu partir dans quelque chose d'assez échevelé, en me disant peut-être que ça n'a jamais été fait.
Est-ce que finalement, ne pas écrire de la fantaisie avec le métier que vous avez, mais sans avoir la culture du genre, est-ce que finalement, vous venez un peu de l'expliquer, est-ce que ça offre pas une vraie liberté?
Oui, c'est une liberté. La fantaisie, c'est une des contrées de l'imaginaire qui offre toutes sortes de possibilités. Au départ, c'est comme un outil, il faut l'employer d'une certaine façon, y imposer sa marque. Non, ça pose pas trop de problèmes.
C'est intéressant de parler avec les traders, parce que finalement, on nous dit souvent, mais comment vous imaginez une histoire pareille, c'est pas crédible, un trésor qui va grandir quand on passe du nord au sud. Il y a des gens avec un tout petit capital, ils achètent des choses qui n'existent pas, avec de l'argent qui n'existe pas, et au final, ils touchent d'énormes bonus qui leur permettra d'acheter des objets qui, eux, existent et qu'on a généralement, nous, fabriqués. Vous voyez bien que la magie est partout, y compris dans le monde. Bon, plus sérieusement, revenons à nos auteurs, et en particulier à Eric Lhomme. Un petit extrait, cette fois-ci, on est dans la littérature pour la jeunesse. La magie, bien sûr, avant quand même, quatrième de couverture. C'est pas si facile d'en faire, j'en écris de temps en temps, donc je suis bien placé. Pour le savoir, je trouve que celle-là, elle est toute simple, elle est super astucieuse. Alors, pour aller vite, la série d'Éric Lhomme et Pierre Bottero, c'est une série, je ne sais plus, c'est 6 ou 8 le projet final, 8 8, c'est ça. 8 volumes, A comme association, et chaque volume devait être écrit en alternance par Éric et Pierre Bottero. Si j'ai bien compris, Pierre a eu le temps d'en écrire 2. C'est bien ça, et donc sur le scénario que vous aviez élaboré ensemble, c'est Éric Lhomme qui écrit les 6 autres. Alors, un de ceux qui ont été écrits, je vous donne quand même le plaisir, c'est pour des jeunes lecteurs. Prénom Jasper, âge 15 ans, description grand, maigre, peau blafarde, des yeux charbon. Profession agent stagiaire à l'association et lycéen, à ses heures perdues. Ça, il y en a beaucoup. Signe particulier, pratique la magie et joue de la cornemuse dans un groupe de rock médiéval. Aime les mauvais jeux de mots, donjons et dragons, l'agent stagiaire ombre, mission, faire ami-ami avec Hergulule le troll et sauver la vie de l'agent ombre. Avec ça, à 15 ans, on a du travail. Petit extrait. La pièce est plongée dans la pénombre. D'épais rideaux empêchent la lumière du jour et celle de la nuit parisienne, par la même occasion, de se répandre à l'intérieur. J'allume une grosse bougie posée sur un chandelier en fer forgé. Ici, pas d'alimentation électrique. Je l'ai supprimé, ça faisait des interférences. Je sors mon téléphone portable et je le pose sur un coin de la lourde table en bois, encombrée d'alambics et d'outils de toutes sortes, juste à côté de mon collier fétiche. Un collier protecteur, en fait un rubis, un diamant et un jade enfilé sur un cordon de cuir que j'ai l'habitude de porter. Il a méchamment morflé il y a quelques jours au cours d'une attaque au taser et accaparé par les répétitions, je n'ai pas trouvé le temps de le purifier, de le régénérer. La table est entourée d'un pentacle gravé sur le plancher. Le pentacle est au magicien ce que sa coquille est à l'escargot. Il l'isole et le protège contre les éventuels retours de sort, les agressions et les énergies négatives. À la façon d'un champ de force, un pentacle bien fait en valant 2, j'ai doublé les lignes et rempli l'intervalle de caractères runiques. Mon téléphone est éteint. Je l'ai débranché aussitôt, ma décision prise. Pas pour faire le mort, encore que, mais pour éviter de parasiter le lien établi entre l'appareil d'ombre et le mien. Je fronce les sourcils. Quel ouvrage déjà mentionne le sortilège permettant de transformer un simple mobile en mouchard GPS à options multiples. Alors Eric Lhomme, comment on fait de la magie en mélangeant avec notre univers la technologie et les téléphones portables?
Alors, avant de commencer, je suis obligé de contredire Trudy. La magie existe pour de vrai. J'en ai ici la preuve. C'est le 5e tome de ma série qui ne doit sortir que dans 10 jours et que je découvre. Là maintenant en venant aux Imaginales.
Les éditeurs sont vraiment sympas, ils me procurent des livres en avant-première.
Voilà. Donc ça y est, je peux le prendre en main là, c'est pour la première fois. Alors oui, c'est je disais tout à l'heure que je faisais un mélange de j'aimais les mélanges de genres et dans A comme association. C'est notre monde aujourd'hui. L'action se déroule essentiellement à Paris, mais un Paris revisité avec des noms de rues qu'on a changés. Alors il y a par exemple l'avenue Mauméjean, il pourrait y avoir la place Canavan, peu importe, voilà, il peut y avoir des voilà. Mais tout se passe à Paris. Malgré tout, et à notre époque, les héros vont au lycée, au collège, et ils travaillent. Alors, Jasper et Ombre, qui étaient le personnage de Pierre, sont tous les deux stagiaires dans l'association. Et l'association, c'est un organisme qui gère la cohabitation entre les humains normaux et les créatures. Voilà. Et le talent particulier de Jasper, c'est la magie. Et c'est pour ça qu'il mélange en permanence la magie qu'il pratique avec l'elfique. On parlait tout à l'heure de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. J'ai sur mon bureau depuis 2 ans une grammaire et un dictionnaire de Kenya, de haut elfique, et c'est à partir de ces documents que je crée mes formules magiques, etc., pour coller au plus près avec la source. Et je m'amuse beaucoup à mélanger la magie avec les objets du quotidien, en l'occurrence ce téléphone qui va servir de mouchard pour rejoindre l'agent stagiaire Ombe.
Visiblement, d'après les chiffres de vente qu'on m'a glissé à l'oreille, les jeunes lecteurs commencent à apprécier beaucoup la série.
Mais je crois que la série démarre bien. J'allais dire, à ma grande surprise, entre guillemets, je sais, un peu ironique, parce que j'ai truffé, et Pierre aussi avait truffé ses livres, d'humour un peu débile et de jeux de mots moisis. Et à ma grande surprise, ça plaît beaucoup, voilà, aux jeunes lecteurs.
Des fois, ils ont envie qu'on ne se prenne pas au sérieux dans la littérature aussi, peut-être.
C'est extrêmement rassurant.
C'est bon signe, on dit beaucoup de mal de la jeunesse, finalement. Tant qu'ils ont encore le sens de l'humour, il y a de l'espoir pour les choses qui viennent. Dernier mot, et court, parce qu'on est en train de dépasser, et ça, je sais que les modérateurs suivants détestent, mais là, on est tranquille, parce qu'on peut aller jusqu'à midi, parce qu'il n'y a personne derrière, ça c'est l'avantage, quand on fait le dernier café littéraire de la matinée ou de la soirée. Brandon Sanderson, le titre de ce café, c'était La fantaisie, c'est rien que du bonheur. À vous de convaincre notre public pour conclure ce café littéraire, parlez-nous de votre bonheur de lecteur de fantasy et de votre bonheur d'écrivain de fantasy.
Fantasy is awesome. It's awesome because you can do anything in fantasy you can do in any other genre, plus you can have dragons.
La fantasy, c'est super cool parce qu'on peut faire absolument ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on peut faire dans tous les autres genres, sauf qu'en plus, il y a des dragons.
I mean, why not? I've read fantasy novels that have as great a literary cast to them as the great classics. I've read fantasy novels with humor as funny as the great humorous. I've read fantasy novels with romance as strong as the best romantic fiction. Plus the added element of creativity, imagination, magic, and fantastic situations. And so fantasy it's wonderful because it can do everything plus the thing that no one else can do without entering our genre, which is have this kind of imagination.
Je veux dire, pourquoi pas? J'ai lu, en tant que lecteur de fantasy, j'ai lu des romans, des séries qui avaient un panel, un éventail de personnages profonds et complexes, capables de rivaliser avec les meilleurs classiques. J'ai lu des romans de fantasy extrêmement drôles, aussi drôles que les meilleurs humoristes. J'ai lu des séries qui avaient des éléments romantiques aussi émouvants que la meilleure fiction, que les meilleurs romans sentimentaux. Sauf qu'en plus, ce genre permet une créativité, une imagination, de la magie, des situations fantastiques. Et c'est pour ça qu'elle est merveilleuse. Et c'est en observant en plus tous ces éléments que personne d'autre ne peut utiliser et employer qu'ailleurs qu'en fantasy, à moins d'entrer dans le genre. Et c'est parce que, justement, elle montre cette imagination que je l'apprécie.
Eh bien, voilà, c'est une belle conclusion. C'était vraiment celle qu'on pouvait souhaiter pour ce café littéraire. Ça nous confirme que la fantaisie, c'est rien que du bonheur. Les imaginales aussi, j'espère, en tout cas, pour 2 jours et demi encore. Je vous invite à aller à la Bulle du Livre, retrouver nos 4 auteurs, les inénarrables malfrats de Laure et la Toise de Brice Tarvel, les aventures échevelées de Brice Sanderson. Vous aurez évidemment les aventures pour jeunes de la série de Pierre Bottero et d'Éric Lhomme, là aussi que vous retrouverez. Et puis, évidemment, les magiciens et magiciennes de Trudy Canavan. Merci à tous les 4. Bonne journée.